Un excellent sabbat à tout le monde. Le titre de mon message aujourd'hui, le seul chemin vers l'immortalité. Le seul chemin vers l'immortalité. Vous savez, et c'est un mystère pour personne, les êtres humains ont toujours espéré et cherché l'immortalité. C'est un fait. Les gens désirent vivre le plus longtemps possible. Et à tout le moins, ils cherchent à prolonger leur vie de toutes les façons imaginables. C'est ce qui se produit. Mais en réalité, et on sait par la Bible, et on sait aussi par ce qu'on voit, qu'on constate, que l'être humain n'est pas un être immortel. Il a été créé volontairement par Dieu en tant qu'être mortel. D'ailleurs, Dieu a vraiment dit, quand vous regardez dans Genèse 3, verset 19, « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Reportez-vous à Ecclésiaste chapitre 3 et le verset 11, s'il vous plaît. Ecclésiaste 3, et nous allons lire le verset 11. Et on va y découvrir quelque chose de vraiment fascinant concernant le plan de Dieu. Pourquoi les humains cherchent-ils à vivre éternellement? Et vous avez ici la réponse qui a été donnée par Salomon dans Ecclésiaste 3 et le verset 11. En parlant de Dieu, il dit ceci, « Il fait toutes choses belles en son temps. Même, et regardez ce qu'il dit, « Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. » Et même si on connaît Dieu, même si on a l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre et saisir toute l'ampleur de l'œuvre de Dieu, ni même qui il est dans sa totalité, et tout ce qu'il fait du commencement à la fin. Plus on marche dans ses voies, plus il nous révèle des choses. Mais il y a des choses qu'on ne comprendra seulement qu'une fois que nous serons rendus totalement spirituels. Mais c'est Dieu qui a mis dans le cœur des hommes le désir de l'immortalité. Ecclésiaste 3 et le verset 11. C'est lui qui a mis ce désir-là dans le cœur des êtres humains. Pourquoi? Il y a une raison. Parce que son but pour l'homme, c'est quoi? C'est de lui donner un jour la vie éternelle. Parce qu'au point de départ, l'homme est mortel. Il n'est pas éternel. Il n'a pas non plus une âme immortelle. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Son but, c'est de donner à l'homme la vie éternelle. C'est-à-dire de le transformer un jour d'être physique en être totalement spirituel, ayant reçu l'immortalité. Pourquoi? Parce que c'est son but pour l'homme de lui donner la vie éternelle, de le transformer un jour, d'être physique en être totalement spirituel, ayant finalement reçu l'immortalité qu'il n'a pas au point de départ. Et pour réaliser ce but, Dieu met dans chaque être humain un élément qui n'est pas physique, qui n'est pas matériel et que Dieu ne met pas dans les animaux, mais qu'il met seulement dans les êtres humains. C'est une composante de nature spirituelle. On va le voir par la Bible tantôt, et c'est très clair. L'esprit humain. La Bible appelle cet esprit cette composante non matérielle, cette composante spirituelle, la Bible l'appelle l'esprit dans l'homme ou l'esprit de l'homme. Dieu a créé l'homme comme ça parce que dans son plan, Dieu veut l'appeler à lui dans un ordre précis. Il appelle seulement un petit groupe maintenant. Il appellera le restant de l'humanité lorsque le Christ sera revenu. Mais Dieu appelle les êtres humains à se convertir, à changer, à recevoir son Saint-Esprit à lui. Et à ce moment-là, à croire dans la grâce, dans la connaissance, à développer son caractère. Et si on persévère jusqu'au retour du Christ, ou jusqu'à la fin de notre vie physique, à ce moment-là, Dieu nous donnera pleinement son esprit à la résurrection pour que nous ayons à ce moment-là l'immortalité que nous n'avons pas maintenant. Maintenant, je précise un point. Pourquoi est-ce que Dieu donne cet élément non matériel, spirituel, dans l'homme? C'est parce que Dieu est esprit et qu'il veut avoir contact avec l'être humain. Et c'est seulement au niveau spirituel pas seulement au niveau du cerveau physique, mais au niveau de l'élément, la composante non physique que Dieu met dans le cerveau humain. Cet élément spirituel, qui n'est pas physique, dans l'homme, lui permet donc d'entrer en relation avec Dieu, qui, lui, est totalement esprit. C'est pour ça qu'on peut communiquer avec notre Créateur. Et notre Créateur, dans ce sens-là, nous appelle vers l'immortalité. Si on suit le chemin qu'il nous indique de suivre, et si on change, si on applique ses lois dans nos vies. Résumé des étapes à partir de l'appel de Dieu, c'est très simple, vous les connaissez déjà. D'abord, lorsque Dieu nous montre sa loi et qu'on réalise qu'on a transgressé la loi de Dieu, qu'on a causé la mort de notre Sauveur, que lui est venu mourir pour payer l'amende de nos fautes, on se repent, c'est-à-dire on regrette d'avoir mal agi, on demande pardon à Dieu, on passe à ce moment-là par les eaux du baptême, là Dieu efface toutes nos fautes passées, et après ça, par l'imposition des mains d'un ministre de Dieu, nous recevons en nous son Saint-Esprit. Donc, sa nature spirituelle, comprenez-vous, qui s'associe avec l'élément spirituel que Dieu a mis dans les êtres humains, l'esprit humain, qui n'est pas physique. C'est de même nature que l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que ça peut communiquer ensemble et que ça peut être associé ensemble. Et quand une personne comme ça reçoit le Saint-Esprit au moment du baptême, on sait qu'avant d'être baptisée, la personne avait l'Esprit de Dieu avec elle. C'est pour ça qu'elle a commencé à comprendre les choses de Dieu. Sans ça, elle ne comprendrait même pas les choses de Dieu. Absolument pas. Mais si une personne commence à comprendre les choses de la Bible et à vouloir faire la volonté de Dieu, c'est parce que Dieu lui donne déjà un peu de son Saint-Esprit avec la personne, pas dans elle, mais avec la personne, pour qu'elle puisse progresser vers le repentir, vers le baptême. Au moment du baptême, il y a l'imposition des mains, et là, la personne reçoit directement en elle un peu de l'Esprit de Dieu, qui n'est pas matériel, c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu. Et là, la personne reçoit ça. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'engendrement dans la famille de Dieu. La personne qui a été appelée, elle est à ce moment-là engendrée, elle reçoit la semence divine en elle, l'Esprit de Dieu qui se joint à son esprit humain, qui n'est pas matériel, qui n'est pas physique, mais qui peut être associé à l'Esprit de Dieu. Et à ce moment-là, ce qu'on peut dire, et c'est fascinant, et ça nous montre la splendeur du plan de Dieu pour le nouveau baptisé, c'est le début, à ce moment-là, de son cheminement vers la vie éternelle, vers l'immortalité. C'est le début de son cheminement vers l'immortalité. En fait, à ce moment-là, il a reçu un peu de l'Esprit de Dieu, un dépôt de l'Esprit de Dieu, une petite quantité de vie éternelle. Et là, on doit l'utiliser, cet Esprit de Dieu, pour changer, pour le supplier, pour le prier, pour nous aider à changer les choses qu'on a à changer. Et Dieu le fait, parce que si on est appelé, puis si on fait ça, on est en train d'accomplir le but de notre vie et le but pour lequel Dieu nous a appelés. Alors aujourd'hui, dans le message, on va examiner ce qu'est l'être humain. On va examiner un peu comment fonctionne son cerveau et ce qui rend l'humain unique par rapport à toutes les autres créatures physiques qui ont la respiration. Il est complètement différent. Ce n'est pas un animal. C'est un être au-dessus des animaux qui est appelé à devenir fils et fille de Dieu, comme on voit à plusieurs endroits dans la Bible. Et on va voir en même temps son cheminement possible vers l'immortalité. C'est le seul chemin possible vers l'immortalité. Et si une personne a accepté de faire le chemin et qu'après ça, elle se détourne, elle perd la possibilité d'avoir la vie éternelle. Une fois qu'on a signé le contrat de l'engagement dans les eaux du baptême, dans le sang du Christ. Ce qui m'a amené à réfléchir à cette question-là, puis ça m'a fasciné aussi, c'est une présentation webcast sur ce qu'on reçoit chaque semaine. On peut s'abonner, ça, pour le recevoir chaque samedi. Ce sont de petites capsules Internet où un ministre de Dieu explique un point en particulier. Et il y en a une qui m'a frappé, de M. Adam West. M. Adam West, c'est un de nos pasteurs de l'Église du Dieu vivant en Angleterre. C'est lui, d'ailleurs, qui va remplacer M. Weston pour s'occuper de l'Angleterre et de l'Europe. Et dans un de ses webcasts récents, qui s'appelle « L'immortalité par ordinateur », c'est le titre de sa petite présentation, et il se réfère pour ça à un article qui est paru dans la BBC News du 14 mars 2016, il n'y a pas longtemps. Et le titre en français de l'article en question, l'immortaliste, deux points, télécharger la pensée humaine à un ordinateur. Télécharger la pensée humaine à un ordinateur. Et là, vous allez voir qu'il y a des hommes versés en sciences humaines, de niveau humain, qui espèrent arriver à l'immortalité par des moyens humains. Et c'est frappant de voir qu'est-ce qu'ils font, comment ils travaillent les choses. L'article explique comment un millionnaire de l'Internet de 35 ans, Dmitri Iskov, a un grand but, lui. Monsieur Iskov veut, en fait, cartographier la pensée humaine et la télécharger sous forme numérique à un ordinateur. Rien de moins. Et c'est pas n'importe qui, là. C'est un homme connaisseur dans son domaine. Mais il rêve d'immortalité aussi. Il pense qu'il peut arriver à trouver la façon d'amener les êtres humains à être immortels. J'ai trouvé ça fascinant, mais en même temps, ça va me permettre d'expliquer que le seul chemin vers l'immortalité, c'est seulement par Dieu. Et comment ça fonctionne? Ça permettrait, selon lui, à la conscience humaine de continuer à vivre indéfiniment, même en plus d'un lieu à la fois. C'est ce que M. West explique. Il pense qu'il pourrait libérer l'humanité de ses contraintes biologiques, par exemple du vieillissement. Ben oui, si on est dans un ordinateur, on vieillit plus en principe. Je vais aller plus loin tantôt. Tel que le processus de vieillissement. Et ultimement, l'humanité pourrait être préservée de la mort. Il croit réellement que de cette façon, il est possible d'atteindre l'immortalité. Tout de suite, on voit que ça ne tient pas la route, là. C'est absolument pas logique. Mais c'est sérieux, selon ses yeux. Et il est appuyé par des scientifiques dans son idée, là. Les humains cherchent l'immortalité, mais à leur niveau, dans leur corps et de sable. Ils ne comprennent pas les choses spirituelles parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Alors, ils travaillent avec le sable qu'ils ont pour essayer de trouver des solutions. L'article révèle aussi que le docteur Randall Combe, un neuroscientifique et ancien professeur à l'Université de Boston, lui travaillait dans le Centre de la mémoire et le Centre pour l'étude du cerveau, lui estime que ça peut être possible. Et regardez ce qu'il dit. « Toutes les évidences démontrent qu'en théorie, et là j'ai souligné en théorie, ce soit possible. Extrêmement difficile, mais possible. Okay? » L'article continue en expliquant que notre cerveau est fait, et ça c'est exact, d'environ 86 milliards de neurones, c'est-à-dire des cellules qui transmettent en tout sens de l'information par de petites décharges électriques. C'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. Il y en a un autre aussi qui va dans le même sens. Le professeur Raphaël Juste, un neurobiologiste de l'Université Columbia, lui a déclaré « Le défi consiste précisément à passer d'un substrat, c'est-à-dire d'un support physique de cellules connectées à l'intérieur du cerveau, à notre monde mental, nos pensées, nos souvenirs, nos sensations. » Là, lui, il entrevoit quelque chose. C'est qu'il dit, on a un cerveau physique qu'on peut disséquer, qu'on peut analyser, mais comment ça se fait que ça passe du physique à quelque chose qui est plus physique, à nos pensées, à ces choses-là? Il voit qu'il y a une grande marge, là. Et c'est ce que la Bible explique, en quoi consiste cette grande marge-là, quand Dieu dit « J'ai mis un esprit dans l'homme qui n'est pas physique, j'ai mis ça dans son cerveau, pour qu'il soit capable de penser, d'avoir des réactions, de se souvenir, de décider, et ainsi de suite. » Il y a un autre neuroscientifique, le Dr. Ken Hayward, qui croit que la pensée est essentiellement faite de tellement de 1 et de 0, comme un ordinateur, qu'il s'agirait simplement de pouvoir transférer ces données du cerveau à un ordinateur, ce qui produira l'immortalité. Wow! Pas compliqué, hein? C'est compliqué, mais ça ne l'est pas en même temps, parce que c'est impossible. Mais c'est des gens sérieux, pourtant. C'est des choses documentées que vous pouvez voir. Les gens font des recherches. Je vous ai dit tantôt que dans leur petit carré de sable, les êtres humains cherchent à avoir l'immortalité, mais ils ne voient pas plus haut. Ils ne voient pas qu'il y a un Créateur tout-puissant qui a mis dans l'homme un esprit, justement, qui n'est pas physique et qui nous donne la possibilité, contrairement aux animaux, de penser, de rêver, de bâtir des projets, de développer des relations et d'entrer en contact avec Dieu en vue de la réception plus tard de la vie éternelle. Question. Le côté physique de notre cerveau, est-ce que ça peut à lui seul expliquer les capacités mentales qu'on a, le cerveau physique qu'on a, là? Est-ce que ça peut expliquer comment ça se fait qu'on est capable de penser, de réaliser des choses, de faire des dessins, de communiquer, de créer des avions et ainsi de suite? Est-ce que ça peut à lui seul, parce que c'est un cerveau physique, Écoutez, il y a des animaux dont le cerveau est beaucoup plus volumineux que le cerveau des êtres humains. Alors, si c'était juste là-dessus, il y aurait peut-être des animaux plus considérables qui pourraient faire des meilleures choses, et des choses plus importantes que nous, ou plus grandes réalisations. Je pose la question autrement. Est-ce que notre cerveau est composé de plus que juste de la matière? Je vous ai déjà donné la réponse. Oui. L'élément immatériel, spirituel, que Dieu y a mis, l'esprit dans l'homme. Et c'est important qu'on comprenne ça parce que c'est tellement encourageant. Ça nous montre la grandeur du Créateur et comment il nous a bâtis en fonction de l'avenir qu'il nous réserve. Tout ça se tient là. Il a mis dans nous un élément non matériel par lequel on peut entrer en contact avec lui au même niveau d'une certaine façon parce que c'est de nature spirituelle et que si on fait sa volonté, il va mettre dans notre esprit son esprit qui est un dépôt de la vie éternelle. Et si on est fidèle jusqu'au bout, il va nous donner en bout de ligne la totalité de son esprit pour que nous devenions à être spirituels dans sa famille. Tout ça, ça se tient. D'ailleurs, le jeune Élihu, quand Job a eu tous ses problèmes et tout ça, que ses amis sont allés le trouver, qui n'ont pas donné vraiment des bonnes réponses encourageantes à Job quand il était dans tous ses problèmes, vous avez un jeune homme qui arrive et qui donne exactement une réponse juste à Job. Vous irez voir dans Job 32, verset 8. Job 32, verset 8. Élihu dit ceci, « Dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Élihu a donné une réponse précise et ça dit comment l'homme a été conçu et pourquoi l'homme a été conçu de cette façon-là. Au point de départ, l'être humain, je dois préciser, comme les animaux, il est fait de terre. Il est fait de terre, même matière que les animaux. Je vais vous lire maintenant, pour aller plus loin dans mon sujet, un passage du « Mystère des siècles », ce volume superbe qui a été écrit par M. Herbert Armstrong il y a plusieurs années, qui explique beaucoup de choses concernant le plan de Dieu et en particulier l'esprit dans l'homme. Alors, « Le mystère des siècles », page 91, M. Armstrong commence par citer Genèse 2, verset 7, où Dieu dit comment il a créé l'homme. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » OK, donc il a été fait de la terre, vous et moi. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, de l'air, et l'homme devint un être vivant. Il est devenu un être vivant, non pas un être immortel, mais il est devenu un être vivant. L'homme, composé de poussière, c'est-à-dire de matière, devint, lorsqu'il se mit à respirer de l'air, simplement une créature vivante. C'est ce qu'il était devenu. Ce passage ne dit pas que l'homme a une âme immortelle, ou qu'il est une âme immortelle. Il y a des différents endroits dans la Bible où le mot « être vivant » a été traduit par « âme ». Mais il faut voir le contexte, il faut comprendre ce principe-là. Écoutez, Dieu dit, vous irez voir dans Ézéchiel 18, verset 20, Dieu dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, l'âme peut mourir, c'est-à-dire l'âme dans le sens de « nefesh », le mot original pour les animaux et pour les êtres humains, tout ce qui a respiration de vie. « Nefesh » veut dire simplement « être vivant », un être vivant. Alors Dieu dit, les êtres vivants qui pêchent, il y a juste les humains qui peuvent pêcher, les animaux ne pêchent pas. Ils font leur vie par instinct, mais ils ne pêchent pas. Il dit, l'âme, donc l'être vivant qui pêche, c'est celui qui mourra. C'est le salaire du péché. Dans le cas présent, ce qui avait été formé à partir du sol, quelque chose de matériel, devint une créature vivante, tout simplement, qu'on appelle parfois une âme, mais que ça a été mal utilisé parce qu'à cause des fausses conceptions de grandes religions dans le monde, en particulier plusieurs grandes religions chrétiennes, prétendent que l'être humain a une âme immortelle et lorsque l'être humain meurt, cette âme-là se détache et s'en va dans toute conscience vers Dieu ou en enfer, ce qui n'est pas du tout le cas bibliquement. Petite parenthèse. Chaque fois que le mot « âme » est employé, M. Armstrong mentionne, il faut donc se souvenir que dans l'original en hébreu, cette « âme », entre guillemets, est physique et qu'elle se compose de matière et qu'elle peut mourir, comme on voit à plusieurs endroits dans la Bible, quand Dieu dit « l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Il s'agit là d'une vérité à laquelle très peu de confessions ou autres religions croient. Mais je vous donne les choses exactes de la Bible, puis on voit le plan de Dieu. Vous allez voir, on va aller plus loin. Même si l'homme est fait de la poussière du sol, Comme les animaux, on l'a vu. Les différents niveaux d'existence. Hein? Le niveau minéral, la pierre, le sable, et ainsi de suite. Le niveau végétal de création. Le niveau animal, les animaux. Ensuite, le niveau humain. Au-dessus de tout ça, le niveau angélique, les anges. Et au-dessus de tout ça, le niveau d'existence divin, l'être divin. Alors, et les êtres physiques humains sont appelés à devenir les fils et les filles de Dieu, c'est-à-dire à naître dans la famille des êtres divins et à devenir les fils et les filles de Dieu, au-dessus des anges qu'ils auront à diriger à l'époque, comme la Bible nous montre. Je ne veux pas aller dans ce détail-là, mais vous connaissez un petit peu les textes là-dessus. Alors, l'homme n'est pas un animal supérieur. Il a été créé à l'image de Dieu. Mais je reviens là-dessus avec un élément spirituel, non matériel, dans son cerveau. Ce qui le rend semblable à Dieu, c'est en ce point-là qu'il est semblable à Dieu. Ce qui lui permet d'entretenir un rapport avec Dieu, qui est un être spirituel. C'est à cause de notre esprit en nous qu'on peut entretenir un rapport avec Dieu, qui est un esprit. Ce qui ouvre la possibilité à l'être humain d'aller vers l'immortalité s'il reçoit un peu du Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire de la nature de Dieu, au moment de son baptême, et s'il persévère jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. Il recevra, comme on voit dans la Bible, la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il deviendra totalement spirituel, comme Dieu est totalement spirituel. Fantastique! Là, on voit la beauté et la splendeur du plan de Dieu. Allez dans Genèse 1. Genèse 1, on va voir ici le langage utilisé pour décrire la création des animaux. Genèse 1, versets 24 et 25. Dieu dit « Que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre. » Selon leur espèce, à partir de la terre, à partir de la poussière, selon leur espèce. Le bétail, selon son espèce, et tous les reptiles de la terre, selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. OK? Allons plus loin maintenant, et voyons la description de la création de l'humain, qui est totalement différente de la création des animaux. Sauf sur un point, c'est qu'il est créé à partir de la terre. Mais c'est le seul élément de ressemblance avec les animaux. Et regardez après, on le voit ici, Genèse 1 et le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Voyez-vous déjà, quand il a dit on va donner la vie à un être au-dessus des animaux qui est appelé à devenir membre de notre famille, il a créé l'homme à son image parce qu'il fallait qu'il ressemble à Dieu. Il fallait qu'il y ait des points de ressemblance qui puissent les développer. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Les deux ont la même possibilité de naître un jour dans la famille de Dieu. Dieu les considère tous les deux importants. Et regardez le verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Je fais juste une petite parenthèse. Même sous la forme que nous avons, nous ressemblons à Dieu, à un niveau beaucoup plus petit. Mais Dieu a des mains, Dieu a des yeux, Dieu a des oreilles. On le voit dans plusieurs passages de la Bible, mais il est de nature spirituelle. Mais il a reproduit un modèle en terre de ce que lui-même est au niveau spirituel, mais en vue de nous amener à devenir des êtres totalement spirituels. Tout ça, ça se tient et c'est fantastique. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. L'homme a été créé pour avoir, lui et ses descendants, avec Dieu, des rapports spéciaux. Et c'est pour ça qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour que cette communication-là puisse avoir lieu. Il a reçu un esprit sous forme d'essence, qui n'est pas physique, pour que ces rapports puissent exister. Et qu'il puisse aller vers son engendrement en recevant le Saint-Esprit, et qu'il puisse aller vers l'immortalité en vivant selon les lois de Dieu au cours de sa vie physique. Voyez-vous, par cet esprit humain, Dieu a rendu possible, en fait, les rapports entre l'homme et lui. Il a rendu possible les rapports entre l'homme et lui par l'esprit humain. Et je précise une chose par rapport aux animaux. Il n'y a aucune ligne de communication entre le cerveau des animaux et l'esprit du Dieu suprême. Il n'y a aucun animal qui communique avec le Dieu suprême. Les animaux ont un instinct, ils sont programmés comme ils sont programmés, ils font leur vie à leur niveau. Et il n'y a pas d'espérance après leur mort non plus. Ils passent tour après tour selon leur espèce et ainsi de suite. M. Armstrong continue en disant ceci. L'animal, mis à part son instinct, ne peut ni penser, ni raisonner, ni étudier. Vous n'avez jamais vu un animal étudier pour apprendre quelque chose. Vous auriez beau, même si vous êtes un grand ami de votre chat ou de votre chien, vous auriez beau vous asseoir devant lui et travailler très fort à lui expliquer que 1 plus 1, ça fait 2, ça ne changera rien dans sa perception, dans sa compréhension, dans sa connaissance, quel que soit le nombre d'heures que vous allez y consacrer. Il ne peut ni penser, ni concevoir, ni analyser, ni décider, ainsi de suite, parce que ce n'est pas dans sa nature. Il ne possède pas la connaissance que l'homme possède et que l'homme peut posséder et développer. Complètement différent. Et Dieu l'a fait, l'homme, pour ça, parce qu'il l'appelle à quelque chose de beaucoup plus grand. Il veut lui confier ensuite la terre entière sous le Christ, dans son gouvernement et tout ça, mais en tant qu'être spirituel devenu parfait, parce qu'il aura vécu selon ses lois. Alors, les animaux n'ont aucune connaissance spirituelle, n'ont aucune conscience de Dieu. Les animaux sont incapables d'apprécier la musique, incapables d'apprécier la musique, l'art ou la littérature. Les êtres humains sont capables d'apprécier la littérature ou la peinture. Les animaux, ça n'a aucune importance. Si vous avez un tableau qui vaut très cher, qui est connu, si vous faites passer un animal devant, il ne s'arrêtera pas là plus longtemps qu'à côté d'un autre tableau. Il ne verra même pas, il va s'en aller pour manger de l'herbe. Parce que c'est un animal. Ce n'est pas de son niveau d'existence, tout simplement. Pour l'homme, c'est totalement différent. Pour l'homme, c'est totalement différent. L'esprit humain communique au cerveau de l'homme son intellect. Il lui transmet, en fait, le pouvoir d'acquérir la connaissance, de penser, de raisonner, de prendre des décisions, de faire des choix. C'est ça qu'on fait en tant qu'être humain. Pourquoi on est capable de faire ça? Parce que Dieu a mis en nous un esprit humain capable de fonctionner de cette façon-là. Et je reviens à ça, le cerveau de l'homme, biologiquement, et le cerveau de l'animal sont virtuellement identiques. Quand on fait de la dissection dans les cerveaux des mammifères, des êtres humains ou des animaux, c'est le même substrat, la même substance. Physiquement, il n'y a pas de différence, à même au moins, c'est-à-dire peut-être la grosseur du cerveau, comme je mentionnais tantôt, mais pas plus. La supériorité de l'homme, M. Armstrong continue, ne se situe pas au niveau de son cerveau. Ça, c'est important. La supériorité de l'homme ne se situe pas au niveau de son cerveau, mais de la présence dans ce cerveau d'un esprit humain. Voilà la grande différence et voilà la valeur de l'être humain, ce qui fait la différence. Au cerveau de l'animal, un instinct est donné et non pas un intellect. Cela peut paraître étrange et choquant. Il s'agit là, en effet, d'une dimension dans la connaissance que personne n'enseigne. C'est vrai. Moi, j'ai trouvé ça dans l'Église, où je suis membre depuis un certain nombre d'années, depuis plusieurs années même. J'avais jamais entendu parler de ça. Pourtant, la seule valeur réelle de toute vie humaine ne réside que dans l'esprit humain qui fonctionne de pair avec le cerveau de l'homme et qui peut recevoir l'Esprit de Dieu pour l'engendrer en tant que son enfant et aller vers la vie éternelle. Dieu a créé l'homme à partir de la matière, mais à son image et à sa ressemblance, en prévision qu'il devienne membre de sa famille, du même niveau d'existence que lui. Formidable. Ce que les scientifiques ne comprennent pas, c'est qu'il y a chez l'homme vraiment une composante non physique qui, ajoutée au cerveau physique, donne l'intelligence humaine, la pensée, les choix, les raisonnements, et ainsi de suite. C'est l'esprit de l'homme, l'esprit humain, et Paul le mentionne et l'explique très clairement. Allez, je pense que ça vaut la peine, allez dans 1 Corinthiens chapitre 2. L'apôtre Paul a vraiment mis le doigt sur cette réalité-là et l'a décrit très clairement. 1 Corinthiens, chapitre 2, regardez la première partie du verset 11. « Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme. Alors, Paul dit ici, chez l'être humain, qu'est-ce que l'être humain peut comprendre? Qu'est-ce que l'être humain peut connaître en lui-même, là? Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. L'intelligence dont parlait Élihu tantôt, là. L'intelligence qui vient de l'Éternel, qui est ajoutée au cerveau de l'homme. Alors, ce que Paul est en train de dire ici, quand on regarde comme il faut, c'est que à l'homme a été donnée la capacité de penser, d'analyser, d'acquérir des connaissances d'ordre physique, d'ordre matériel. Il est capable de faire des projets, il est capable de bâtir des choses, des voitures, des maisons, des engins spatiaux. C'est extraordinaire ce que l'homme peut faire avec son cerveau humain, à son niveau, avec la matière. Fantastique! Mais il va plus loin après. Et là, Paul donne une différence. Il dit, de même, personne, aucun être humain, ne connaît les choses de Dieu, les choses divines, les choses de nature spirituelle, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Comprenez-vous que si je peux comprendre des choses spirituelles de la Bible, c'est que Dieu me donne de les comprendre par son Saint-Esprit. Si je n'ai pas ce Saint-Esprit, je ne peux pas comprendre. Je peux parler de la Bible des jours de temps, des heures de temps, et ne pas la comprendre. Répéter les mots, mais que ce soit vide, qu'il n'y ait pas la vraie compréhension. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et regardez, précision un peu plus loin. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Ici, il parle des gens que Dieu appelle à sa petite église actuellement. Mais l'Esprit qui vient de Dieu, c'est ce qu'on a reçu. Pourquoi qu'on a reçu ça? Afin que nous connaissions les choses de Dieu. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce, dans sa bonté, qu'il nous a donné de comprendre. C'est par son esprit qu'on peut comprendre les choses spirituelles. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Si Dieu n'ouvre pas notre esprit et ne nous donne pas un peu de son esprit, non seulement on ne peut pas comprendre les choses spirituelles, mais on ne les accepte pas. On ne peut pas les accepter. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Si c'est spirituellement qu'on en juge, il nous faut avoir un esprit pour en juger. Et un esprit dans l'homme aidé par l'Esprit de Dieu. Là, tout ça se tient dans le bon sens. Et notez bien que cet esprit dans l'homme ne donne pas la vie à l'homme. L'esprit dans l'homme ne donne pas la vie à l'homme. Il lui permet de penser, de connaître, de comprendre, de décider, de choisir. Mais il ne donne pas la vie à l'homme. La seule chose qui rend possible un début de vie éternelle chez un homme, c'est la réception du Saint-Esprit de Dieu après s'être repenti et après avoir reçu le baptême, puis après avoir reçu l'imposition des mains. Le Saint-Esprit divin, joint à un esprit humain, composante non physique, rend possible le début de la vie éternelle. C'est ça qui rend possible le début de la vie éternelle. Allez juste un peu plus loin dans 2 Corinthiens, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 1. On va lire les versets 21 et 22. « Et celui qui nous a fermis avec vous en Jésus-Christ et qui nous a oint, lorsqu'on est baptisé et qu'on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit l'onction du Saint-Esprit, et qui nous a oint, c'est Dieu. » Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et nous a scellés et mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit, c'est-à-dire un dépôt du Saint-Esprit, un peu de sa présence paternelle, un peu de son esprit. 2 Corinthiens chapitre 5, on va un peu plus loin. 2 Corinthiens chapitre 5 et on va lire les versets 4 et 5. Car tandis que nous sommes dans cette tente, notre tente c'est notre corps physique, c'est une tente temporaire. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. L'être humain ne peut pas vivre éternellement dans un corps physique. Il est appelé à vivre dans une autre dimension. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons. Oui, parce qu'on a toutes sortes de bobos, on a des maladies, des problèmes, des difficultés et des problèmes de toute nature. Nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. On veut que notre corps limité, notre corps physique qui souffre, à un moment donné, reçoive la vraie vie, là où il n'y aura plus de souffrance physique. C'est ce qui est mentionné ici. Et celui qui nous a formés pour cela, vous, c'était son but depuis le tout début, celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, et là il revient avec ça, qui nous a donné les arts de son Saint-Esprit, un dépôt de son Saint-Esprit en nous. Tout ça se tient. C'est pour ça qu'il nous donne son Saint-Esprit, pour qu'on puisse avoir un rapport avec lui, qu'on ait la capacité de changer, de vivre selon ses voies et de nous préparer à la vie éternelle. Éphésiens 1, juste un peu plus loin. Éphésiens chapitre 1. Et nous allons lire les versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, et vous qui êtes ici, vous avez tous entendu la parole de la vérité, et vous avez réagi positivement parce que vous êtes là. Et vous observez son saint sabbat, et vous cherchez à observer les choses de mieux en mieux. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et on sait que le salut, c'est de recevoir la vie éternelle, de ne pas être dans la mort éternelle. En lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis, le dépôt de la vie éternelle, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Pour que ceux-là qui auront reçu son Saint-Esprit, qui ont reçu son Saint-Esprit et qui sont fidèles, puissent recevoir la vie éternelle. À la page 96 du Mystère des siècles, M. Armstrong ajoute ceci. Ça m'a vraiment réjoui de revoir ces choses-là. Lorsque sa création, la création divine, sera terminée en ce qui concerne l'homme, l'homme sera une création totalement spirituelle. L'homme sera une création totalement spirituelle. Il sera composé totalement d'esprit. En recevant le Saint-Esprit de Dieu, l'homme commence alors à acquérir la nature du Dieu tout-puissant et immortel. Et il doit développer au fil des ans cette nature-là. Dieu vient habiter spirituellement dans son esprit humain. Formidable plan de Dieu, tellement encourageant que Dieu considère des riens comme nous, même coupables de la mort de son Fils, qu'il les considère dans une telle miséricorde et un tel amour qu'il veut nous laver de nos fautes si on se repent et nous amener à nous donner totalement la vie éternelle, l'immortalité. Alors je reviens là-dessus, la réception du Saint-Esprit au moment du baptême, c'est un paiement initial concernant l'Esprit total qui nous sera donné plus tard. C'est un dépôt de vie éternelle, c'est un dépôt d'immortalité. Il nous faut ensuite marcher dans la voie divine qui mène à la vie éternelle. Matthieu chapitre 7, et nous allons lire les versets 13 et 14. Entrer par la porte étroite. Donc, on a un certain comportement à adopter quand on connaît Dieu et qu'on veut vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Entrer par la porte étroite. Car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. À quelle vie? Pas la vie physique, on l'a déjà. À la vie éternelle. Et il y en a peu qui les trouvent. Et il y en a peu qui les trouvent. Et c'est pour ça que vous lisez aussi dans Jean 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans quel but? Afin que quiconque croit. Et si une personne croit en Jésus-Christ, croit en la parole de Dieu, il doit en vivre. Sans ça, il ne croit pas vraiment. C'est théorique. Si j'y crois vraiment, je veux en vivre. Alors, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit vraiment en lui ne périsse pas. Parce que sans lui, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il dit après? Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait, qu'il la reçoive, la vie éternelle. Parce qu'on ne l'a pas actuellement. Vous irez voir dans Romains 2, verset 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherche quoi? L'honneur, la gloire et l'immortalité. cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Est-ce que c'est assez clair avec tous ces versets-là, et on pourrait en ajouter beaucoup d'autres, comme de quoi l'être humain, dans sa condition actuelle, n'a pas l'immortalité, que ça doit lui être accordé selon certaines conditions, et que Dieu a conçu le cerveau humain en y mettant un élément non physique, l'esprit dans l'homme, pour être capable d'être joint à l'Esprit de Dieu pour aller vers la vie éternelle. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Vous vous rappelez le verset qu'on est allé voir dans Ecclésiaste 3, verset 11? « Qui a mis dans le cœur de l'homme le désir d'être immortel? » C'est lui. « Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » C'est ce qu'on a vu tantôt. C'est ce qu'on a vu tantôt. L'humanité cherche l'immortalité. Oh oui! Mais à sa façon. De toute les façons imaginables. Mais les gens veulent vivre le plus longtemps possible. Mais l'humanité ne l'atteindra pas. Pas par ses propres moyens. Ça doit lui être donné. Et les êtres humains, pour avoir accès à cette immortalité-là, doivent prouver à Dieu qu'ils sont disposés à vivre d'une certaine façon. Et cette façon-là doit être conforme à sa parole. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le chemin de la vie éternelle, quand Dieu nous appelle. Et Dieu appelle pour l'instant, vous en faites partie, un tout petit troupeau sur la planète. Mais après que le Christ sera revenu, si vous et moi nous sommes fidèles, si nous avons déjà en nous son Saint-Esprit, au moment du retour de Christ, nous serons transformés en êtres spirituels et nous pourrons aider le reste des humains encore physiques à ce moment-là, qui auront traversé la Troisième Guerre mondiale et la Grande Détresse, nous allons pouvoir les aider à comprendre quel est le plan de Dieu. Nous allons pouvoir leur expliquer les choses que je vous explique aujourd'hui et leur montrer le chemin qu'ils ont à suivre pour avoir eux aussi accès à l'arbre de vie éternelle, qui avait été offert dès le début de l'histoire humaine aux deux premiers êtres humains, Adam et Ève. Ils avaient le choix. Dieu leur a donné le libre arbitre. Ils avaient déjà la capacité de choisir, mais ils ont choisi de ne pas prendre l'arbre de vie, d'aller vers la vie éternelle, mais prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, ils ont choisi de dire, c'est nous qui allons décider qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et c'est l'histoire malheureuse de toutes les nations humaines depuis le tout début. Et c'est la raison pour laquelle nous souffrons tellement et que l'humanité est tellement sous une misère extrême, et de plus en plus. Au même moment où on est rendu, non seulement on ne distingue plus entre le mal et le bien dans la société, mais on fait le contraire. Comme la Bible nous dit dans Ésaïe, on appelle le mal bien, et on appelle le bien mal. Et on se moque de ceux qui ont encore des principes. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit dans les journaux, c'est ce qu'on voit dans les bulletins de nouvelles. Pourquoi? Parce qu'on est rendu à la fin de l'histoire, de l'être humain séparé de son Créateur, qui n'accepte plus les choses spirituelles. Comme on voit dans la Bible, qui disent aux prophètes, ne nous prophétisez pas, ne nous dites pas les choses qui sont marquées dans la Bible, ou que dites-nous des choses flatteuses. Et la Bible dit qu'ils se sont donné une foule de religions, ils se sont donné une foule de ministres selon leur propre désir, dans leur petit carré de sable. Ils ne voyaient pas ce qui est d'un autre niveau. Ils le verront un jour, heureusement. On ne déteste pas ces gens-là, on les aime. C'est pour ça qu'on veut terminer l'œuvre de Dieu avec force, avec courage, en suppliant Dieu de nous aider de finir l'œuvre pour que le Christ puisse revenir et que l'humanité soit libérée des souffrances qui l'affectent actuellement de façon épouvantable. C'est ça le plan de Dieu. Parce que Dieu a la même intention pour chaque être qu'il a créé dans l'histoire, de lui donner un jour la vie éternelle. Comme il nous est offert à nous maintenant, que Dieu appelle, Dieu va offrir la même chose à tous les êtres humains plus tard. Au moment du retour de Christ et après le 1000 ans, comme on sait dans le plan de Dieu, lorsque ce sera le retour à la vie de tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire, d'avoir leur chance à ce moment-là, d'apprendre les mêmes choses qui nous sont données d'apprendre à nous maintenant. Parce que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'oublie personne et il a le même but pour tous. Il ne force personne. Et ceux qui n'accepteront pas de vivre selon ses lois, on voit qu'il y en aura, ce ne sera pas le grand nombre, mais Dieu va à ce moment-là tout simplement leur enlever l'existence éternellement pour ne plus qu'ils souffrent. Et dans le monde de demain, lorsque toute l'histoire humaine actuelle sera terminée. Il n'y aura plus de cris, plus de douleurs, plus de souffrances, car les anciennes choses auront disparu, comme on voit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 21. « Puis je vis, verset 1, un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. » Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle ou la maison de Dieu avec les hommes. Pour la première fois, le Père descendra sur la terre. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Et regardez les bénédictions extraordinaires. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus personne d'être humain physique à ce moment-là. Il n'y aura plus personne qui seront de nature à mourir. Tous les êtres humains qui auront choisi de vivre selon les voies de Dieu à ce moment-là vont être devenus des êtres spirituels heureux dans un état parfait. Et là, Dieu a plein de projets qu'il nous révélera à ce moment-là pour la suite des choses. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Formidable. C'est ce qui attend l'humanité et c'est ce qui nous attend nous, mais on a une place de choix dans la réalisation de ce plan-là, vu qu'on est appelé maintenant. On a un rôle à jouer maintenant. C'est plus difficile pour nous parce qu'on va à l'envers du courant. On est comme les saumons qui montent les chutes qui remontent à contre-courant les cours d'eau parce qu'on vit dans une société qui va dans un sens alors que nous vivons dans une autre direction. Et à ce moment-là, on devient vulnérable de différentes façons, au sujet de mépris ou de risée, si vous voulez. Mais ça ne change rien au plan de Dieu. Et il faut tenir pour arriver au bout, pour les gens qui ne comprennent pas justement maintenant, parce qu'ils auront leur chance de comprendre. Alors, l'humanité, oui, cherche l'immortalité à sa façon, mais de façon extrêmement limitée, dans son corps et de sable, comme je vous disais tantôt. Elle ne l'atteindra pas. Même avec l'aide des ordinateurs les plus puissants, et même avec les technologies les plus développées. Ce n'est pas vrai qu'on peut transférer la pensée humaine ou d'un homme à un ordinateur. De toute façon, si je vais plus loin, votre ordinateur, il va vivre comment? Il va vivre combien longtemps? C'est une mécanique. Si jamais ce ne serait pas possible de transférer la pensée humaine à une machine, à un ordinateur, mais même si c'était possible, on trouve des montagnes d'ordinateurs dans des lieu de rebut, parce qu'ils ont une vie limitée, ils ne sont pas immortels. Alors, si on mettait la pensée humaine dans un ordinateur, ce serait la pensée, théoriquement, d'un seul homme dans un seul ordinateur qui mourrait après un certain temps, comme toute chose physique qui finit par s'user. Alors, l'humanité n'atteindra pas l'immortalité, même avec l'aide des meilleurs ordinateurs ou des technologies les plus développées. La vie éternelle, l'immortalité, c'est d'un tout autre niveau. J'ai pris le temps d'y penser comme il faut avant de noter ces choses-là. La vie éternelle, l'immortalité, c'est d'un tout autre niveau que le niveau des ordinateurs ou le niveau des réalisations humaines ou le niveau des pensées humaines. Dieu dit, hein, mes pensées sont au-dessus de vos pensées, beaucoup plus hautes que vous pouvez l'imaginer. La vie éternelle, l'immortalité, c'est d'un tout autre niveau. Ce n'est pas d'un niveau physique. C'est d'un niveau spirituel. C'est de ça qu'on parle. Et pour comprendre les choses spirituelles, de plus en plus, il faut avoir l'Esprit de Dieu de plus en plus. La seule façon d'obtenir l'immortalité, c'est par celui qui possède l'immortalité. Jésus-Christ, que la Bible appelle le prince de notre salut, ou le prince de notre vie éternelle, le prince de l'immortalité. Allez dans Romains chapitre 6, s'il vous plaît. Romains chapitre 6. C'est fascinant de voir comment Dieu a conçu son plan, comment les choses sont précises, comment il nous donne de pouvoir les comprendre, les apprécier. C'est encourageant lorsqu'on voit ces choses-là. Romains 6, versets 22 et 23. « Mais maintenant, étant affranchi du péché et étant devenu esclave de Dieu... » Pourquoi il dit ça ici? Comment on peut dire ça, qu'on est affranchi du péché et est devenu esclave de Dieu? C'est quand on s'est repenti, qu'on a été libéré de nos péchés et de l'amende de nos péchés par le sacrifice de Christ, et qu'on devient esclave de Dieu, c'est-à-dire qu'on veut volontairement le servir pour le reste de notre vie actuelle et pour l'éternité. On devient esclave, mais dans le bon sens, de Dieu. Vous avez, si vous faites ça, vous avez pour fruit la sainteté, C'est vrai. C'est-à-dire, vous devenez saint, à part, différent de ce que vous étiez avant, et vous devenez de plus en plus comme Dieu. Vous avez pour fruit cette sainteté, et regardez, et pour fin ou pour but, quoi? La vie éternelle. Au bout de tout ça, si on maintient le cap, c'est la vie éternelle qui nous attend, l'immortalité. Après ça, il explique un peu plus. Car le salaire du péché, c'est la mort, la destruction éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Comment? En Jésus-Christ, par Jésus-Christ. C'est lui qui est le prince de notre salut. C'est lui qui est le prince de la vie éternelle. Il y a une prière que le Christ a faite que je trouve vraiment très intéressante. On la trouve dans Matthieu 11. Matthieu 11, qui va exactement dans le sens de ce que je vous explique. Matthieu 11 et le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Voyez-vous, les sages du monde, les grands érudits, qui ont grande intelligence, des quotients intellectuels supérieurs, ne peuvent pas arriver à comprendre ce que les petits appelés de Dieu peuvent comprendre parce que Dieu leur donne son Saint-Esprit. Christ dit ici, « Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Ils le comprendront plus tard. « Mais je te loue de ce que tu les as révélées. » À qui? Aux enfants. Aux enfants. À tes enfants futurs, à ceux que tu appelles et qui ont un cœur d'enfant. La Bible nous explique à plusieurs endroits qu'on doit avoir un cœur d'enfant, qu'on doit dire, « Père, tu m'as demandé de faire telle chose, je vais m'appliquer avec ton aide à le faire. Aide-moi à changer. Aide-moi à voir mes faiblesses et donne-moi la force de changer ce que j'ai à changer. » Et Dieu va nous répondre parce que c'est son but. Et son but, en bout de ligne, c'est de nous amener à la vie éternelle. Amener à la vie éternelle ceux qui sont humbles, ceux qui ont un cœur d'enfant, ceux qui s'appliquent à marcher dans les voies de Dieu, même s'ils ne sont pas encore parfaits. Et en terminant, je vous cite un petit passage du Mystère des siècles de M. Armstrong à la page 94. Le Créateur révèle et instruit l'homme comment? Par l'intermédiaire d'un livre codé. Par l'intermédiaire d'un livre codé que ni les sages ni les intelligents du monde ne peuvent vraiment comprendre en ce moment, qu'ils comprendront un jour lorsque Dieu va les appeler. Le Créateur révèle et instruit l'homme par l'intermédiaire d'un livre codé, la Sainte Bible. Son message profond est accessible à la compréhension humaine si le Saint-Esprit est présent dans l'esprit d'un individu ou avec un individu que Dieu appelle. C'est seulement compréhensible dans ce cas-là. L'Esprit Saint ne vient habiter dans l'esprit de l'homme que si l'individu capitule entièrement devant cette révélation, s'il se soumet et obéit à Dieu. Pour un tel homme, la vérité devient claire, merveilleuse et inexprimable. C'est fantastique, parce que si on est dans cette direction-là, d'avoir un cœur d'enfant et d'obéir à Dieu, il nous révèle de plus en plus la vérité. Parce que c'est marqué dans Actes 5, verset 32, que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et à ce moment-là, on découvre la splendeur de son plan et on en est, si vous êtes comme moi, tellement encouragé et tellement reconnaissant.